Merci Daniel de m'avoir invité à dire quelques mots à l'ouverture de ce colloque Énergie solaire et société. J'en suis vraiment très honoré, merci à Dominique. Donc quelques mots sur l'urgence climatique, l'urgence énergétique. Oui, c'est vrai, au regard des derniers rapports du GIEC et de toute cette histoire du GIEC, de ces 30 ans d'alerte ou 40 ans d'alerte depuis le rapport Charnay en 79. Voilà. Donc, d'abord, la réalité du réchauffement climatique. Donc, les 7 dernières années ont été les 7 années les plus chaudes que nous ayons connues depuis 150 ans. Le fait que ce n'est pas une surprise, ce que nous avons fait collectivement à notre atmosphère, c'est d'en modifier la composition, donc d'en modifier l'effet de serre. C'est cette propriété, disons, de certains composés. À partir du moment où il y a 3 atomes, ça vibre dans l'atmosphère et pratiquement c'est à effet de serre, de piéger une partie du rayonnement solaire une fois qu'il a été réfléchi à la surface de la planète. Donc l'effet de serre est quelque chose de bénéfique, mais son augmentation, eh bien, nous pose problème. Alors son augmentation, elle est liée, le premier gaz à effet de serre, c'est la vapeur d'eau, mais nous n'en modifions pas directement les quantités dans l'atmosphère, ce qui n'est pas le cas pour le dioxyde de carbone. On l'a augmenté de près de 50%, ou effectivement du méthane, du protoxyde d'azote. Nous en modifions par nos activités directement les quantités dans l'atmosphère. 37 milliards de tonnes de gaz carbonique liés aux combustibles fossiles en 2019, 5 à 6 milliards pour la déforestation, 1 à 2 milliards de tonnes de CO2 pour liés à la fabrication du ciment. On arrive à peu près 44-45 milliards. On y ajoute une douzaine de milliards de tonnes d'équivalent CO2 pour le méthane, le protoxyde d'azote et les autres gaz à effet de serre. Tout ça, c'est très bien documenté. Donc, avec un résultat très clair, c'est que, donc, vous avez retenu déjà que les combustibles fossiles sont donc pour à peu près les deux tiers chaque année des émissions des gaz à effet de serre. Et avec un résultat très clair, c'est qu'on a augmenté le chauffage, effectivement la quantité d'énergie disponible pour assurer l'équilibre thermodynamique de l'atmosphère, de l'océan de surface, voilà, de tout ce qui interagit thermodynamiquement avec l'atmosphère, donc les surfaces continentales et les glaces polaires. Donc cette augmentation est d'à peu près 1%, disons c'est ce 1% qui est à l'origine du réchauffement que nous vivons. Mais surtout, l'essentiel de cette chaleur va dans l'océan, 93% vont dans l'océan, et là le diagnostic est très clair. Élévation du niveau de la mer entre 1 et 2 mm au XXe siècle, entre 3 et 4 mm actuellement, accélération de l'élévation du niveau de la mer, liée pour à peu près 1 mm chaque année au réchauffement de l'océan. L'océan se réchauffe, il se dilate, et puis pratiquement pour l'essentiel du reste, à la fonte des glaces, les glaciers continentaux, et depuis une trentaine d'années, le Groenland, l'Antarctique. En fait, nous avons, à travers cette élévation du niveau de la mer qui s'accélère, un double témoignage du réchauffement climatique, le réchauffement de l'océan et la fonte des glaces. Un point important pour moi, c'est que ce que nous vivons actuellement, c'est ce que notre communauté a envisagé au cours des 40 dernières années. Je dirais depuis le rapport Charnay de ce... Voilà. Aussi bien en termes de rythme de réchauffement, nous sommes sur un réchauffement de 2 dixièmes de degré par décennie à peu près, c'est pas une année après l'autre, mais c'est vraiment une décennie après l'autre. En termes d'accélération du niveau de la mer, ce que je vous ai dit n'est pas une surprise, c'était prévu. En termes aussi d'intensification des événements extrêmes, c'est à travers cette intensification des événements extrêmes que nous sommes sensibles, disons que nous percevons la réalité du réchauffement. Et je dirais que le fait que notre communauté a correctement prévu au cours des 40 dernières années, correctement anticipé le climat que nous vivons aujourd'hui, doit nous inviter à prendre au sérieux ce que cette même communauté envisage à horizon 2050 et au-delà. Alors qu'envisage-t-elle? Donc, évidemment, c'est le bon sens. Comme l'effet de serre est à l'origine, disons, joue un rôle sur notre climat, plus on va émettre de gaz à effet de serre, plus on va, disons, vers des réchauffements importants. Et cela, on le quantifie à partir de scénarios. Il faut faire des hypothèses sur les émissions des gaz à effet de serre. Dans le dernier rapport du GIEC, il y a 5 scénarios, donc 2 scénarios émetteurs, 2 scénarios sobres, un scénario intermédiaire. Alors, disons, prenons les scénarios émetteurs. Disons, donc, quelles sont ces conséquences, justement? Eh bien, on va les dire dans les scénarios émetteurs, 4 à 5 degrés à la fin du siècle d'augmentation moyenne, avec des conséquences sur les événements extrêmes qui vont continuer à s'intensifier, sur l'océan, avec l'acidification des océans qui, disons, l'océan risquerait d'être 2 fois plus acide à la fin du XXIe siècle qu'au début du XXe siècle, avec des conséquences en particulier sur toute la vie océanique. Les récifs coralliens risquent de disparaître d'ailleurs au-delà de 2 degrés. Des conséquences sur l'élévation du niveau de la mer. Voilà, on parle dans ces cas jusqu'à 1 mètre à la fin du siècle, peut-être plus, avec un risque de déstabilisation d'une partie de l'Antarctique de l'Ouest qui ne peut pas être exclue. Voilà, donc des conséquences sur nos sociétés, des conséquences sur la nature qui nous entoure. En fait, je ne vais pas passer trop de temps sur ces conséquences parce que, voilà, ne rien faire n'est pas la solution. C'est très clair. Donc, ça, nous le savons. Nous le savons depuis le début. Depuis, bien sûr, je dirais, depuis Charnay, nous disons qu'il faut diminuer les émissions de gaz à effet de serre si on veut stabiliser le climat. Il faut bien comprendre que la neutralité carbone, eh bien, l'inverse de la neutralité carbone dont nous allons parler, c'est accepter l'idée que l'effet de serre continue à augmenter indéfiniment. Donc ça, c'est, du point de vue du climatologue, inacceptable. Alors, où en sommes-nous actuellement? Nous sommes plutôt, avec les engagements de l'accord de Paris, s'ils sont tenus, je dirais, sur le scénario intermédiaire qui nous emmène vers 3 degrés, peut-être un peu moins, à la fin du XXe siècle. C'est beaucoup trop par rapport à ce qu'il faudrait pour que les jeunes d'aujourd'hui puissent s'adapter sans trop de difficultés au réchauffement climatique. Pour qu'ils puissent le faire, il faudra vraiment limiter à 1,5 degré, en tout cas certainement à 2 degrés, pour que l'adaptation reste possible. Voilà, et sans trop de difficultés. Plus on s'en éloignera, plus cette adaptation sera difficile, avec des conséquences dans tous les domaines, autour de nous, et bien sûr notre humanité, mais aussi la nature qui nous entoure. Donc, c'est là où nous en sommes, et bien sûr, nous avons maintenant, j'adhère complètement à cette idée qui a évolué au cours des 6 dernières années, donc depuis l'accord de Paris, limité à 2 degrés, voire 1,5 degré, et nous sommes progressivement passés de ces 2 degrés à 1,5 degré, limité à 1,5 degré par rapport au point industriel, nous avons déjà pris 1 degré, et disons, j'adhère à cet objectif auquel est associée une neutralité carbone à horizon 2050. Ça, ce n'était pas inscrit dans l'accord de Paris. Dans l'accord de Paris, on parlait de 2 degrés de neutralité dans la deuxième partie du XXIe siècle. Là, on parle maintenant de neutralité carbone à horizon 2050. Alors, cette neutralité carbone à horizon 2050, elle a été, formalisée dans le rapport 1.5 en 2018 et confirmé dans le rapport paru l'an dernier du groupe 1 et du groupe 3, d'ailleurs, maintenant il y a quelques jours. Et, pour la réussir, c'est un véritable défi. Il faut bien comprendre que c'est 37 milliards de tonnes de CO2 que nous émettons, que les combustibles fossiles émettent chaque année, autour de 30, entre 35 et 40 sur les années récentes, il faut réussir à s'en libérer. Et c'est vrai que aller vers une neutralité carbone, c'est aller vers une neutralité carbone, peut-être en premier lieu, de la production énergétique. Alors, on parlera de beaucoup de choses après, dans l'utilisation, bien sûr, il faut aussi, je crois, de l'efficacité énergétique, de la sobriété. L'efficacité énergétique, c'est faire les mêmes choses avec moins d'énergie, c'est moins. La sobriété, c'est un peu regarder ce que l'on fait. Mais le point de départ, c'est évidemment de rendre notre énergie sobre en carbone. Je crois que le dernier rapport du GIEC, celui paru maintenant il y a 15 jours, est un véritable plaidoyer pour les énergies renouvelables. Donc, elle est un plaidoyer d'abord avec un constat très clair, c'est qu'entre 2010 et 2020, le coût des énergies renouvelables, je sais que vous en discuterez aujourd'hui bien sûr, à diminuer, enfin, le coût du solaire, alors on va pas, non, le coût du solaire photovoltaïque, dont on parle aujourd'hui plus, a diminué de 85% à l'échelle planétaire sur 10 ans, à peu près divisé par 2 pour l'éolien. Le coût des batteries également a diminué de 85%. Hein, c'est à prendre en compte, évidemment, dans la dynamique de développement de l'énergie solaire. Alors, cette dynamique, elle est effectivement là. Elle est là, donc, disons, au cours des 5 dernières années, il y a une augmentation de 20% de, alors plus globalement, des énergies sobres en carbone. Voilà, et donc avec, par exemple, sur, alors je parle toujours au niveau planétaire, enfin, pratiquement un triplement, disons, il y a 3 fois plus d'énergie photovoltaïque qu'il y a 10 ans maintenant. Hein, disons, non, ça c'est même entre 2013 et 2018, vous voyez. Alors, où va-t-on ? C'est intéressant de le regarder d'abord, quel est le potentiel dans ce rapport disons, d'il y a 15 jours. Il y a vraiment une figure extrêmement intéressante qui montre le potentiel des différentes énergies en termes de participation à, disons, à cette marche vers la société sobre en carbone. Eh bien, ça pourrait être de, donc je redis le chiffre, c'est plutôt 37 milliards de tonnes de CO2 liées aux fossiles. On pourrait en gagner, disons, d'ici 2030, si on investit dans le photovoltaïque, à peu près jusqu'à 3 milliards de tonnes, ce qui est loin d'être négligeable, un coût très minimal, disons 20 euros la tonne, et puis si on augmente les coûts, les investissements pourraient doubler, disons aller vers 4 milliards de tonnes. Alors c'est à peu près un peu moins pour l'éolien, c'est beaucoup plus que le nucléaire. À l'échelle planétaire, le nucléaire, disons, à coût comparable, c'est plutôt 1,5 milliard de tonnes. Disons 1 milliard de tonnes, si on va jusqu'à 100 euros, disons, la tonne de carbone, hein, si on investit beaucoup. Hein, donc c'est quand même important d'avoir ces chiffres en tête à l'échelle planétaire. Disons, ce qui va faire avancer les choses au cours des 10 prochaines années, en tout état de cause, c'est effectivement le renouvelable et en premier lieu le solaire voltaïque, le photovoltaïque à l'échelle planétaire. Le deuxième point, bien sûr, peut-être un regard sur la France, et je vais en terminer là. Voilà, il y a 6 scénarios, disons, de RTE. Je pense que la première conclusion importante de ces scénarios de RTE, c'est que la France n'atteindrait pas de neutralité carbone sans un développement significatif des énergies renouvelables. C'est ça le premier enseignement, ce n'est pas le débat sur le nucléaire, vraiment, qui est presque du second plan, du second ordre. Pourquoi ? Eh bien parce que quels que soient les 6 scénarios vers lesquels nous regardons, on va, disons, si on regarde le solaire photovoltaïque, dans le scénario, dans le scénario tout renouvelable, bon, c'est 208 gigawatts, mais même dans le scénario où il y a le plus de nucléaire, c'est 70 gigawatts à horizon 2050. Alors que même dans ce cas-là, le nucléaire, c'est, disons, le nouveau nucléaire ne serait que de 27 gigawatts. Donc il faut bien avoir là aussi ces chiffres en tête, parce qu'il y a un débat, mais c'est vraiment très important, et c'est la première conclusion du rapport de RTE, j'en terminerai là. Nous n'arriverons en France à neutralité carbone que s'il y a un développement significatif du renouvelable. Alors bien sûr, pour moi, il y a l'éolien, enfin, le solaire, je crois aussi l'éolien terrestre, et bien sûr l'éolien offshore. Voilà, merci beaucoup.